Très bien. J'aimerais donc qu'on puisse prendre ensemble ce matin ce texte, Josué chapitre 24, et on va parcourir des versets 14 au verset 28. Comme l'a dit François, c'est la dernière fois que je suis avec vous pour un culte, pour vous apporter la parole avant mon départ à Mâcon. Et vous savez, en tant que prédicateur, on réfléchit toujours quel texte on va prêcher, de quoi est-ce qu'on va parler. Et vu que c'est mon dernier culte avec vous, c'est un peu un culte de départ pour moi, il y a certains textes qui reviennent à ma mémoire et j'en ai choisi un, celui de Josué. Ce texte qu'on va prendre aujourd'hui, ce sont les adieux de Josué. Josué fait ses adieux au peuple, le peuple d'Israël qui l'a conduit, dont il a été le général. Lui qui a pris la succession de Moïse, Josué maintenant est à la fin de sa vie. Et juste après notre texte, la fin du chapitre 24, Josué va mourir. Et c'est donc pour cela qu'il prend la parole dans les versets que nous allons prendre ce matin pour faire ses adieux au peuple et lui adresser les dernières recommandations, un dernier encouragement, une dernière exhortation. Avant de lire le texte, quelques mots. Nous sommes dans la conquête du pays de Canaan, dans le livre de Josué. Le peuple est donc sorti de l'esclavage d'Égypte. Il a traversé le désert avec des difficultés, avec aussi tout un apprentissage avec Dieu. Ils arrivent dans le pays de Canaan, qu'ils vont conquérir sous le commandement de Josué. Une période plutôt bonne. Le livre de Josué est un livre qui est très positif. Spirituellement parlant, le peuple est plutôt fort dans sa foi avec Dieu. Et Josué leur rappelle, juste avant les versets qu'on va lire, juste avant cela, Josué leur rappelle tout ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que moi aussi, je vous le rappelle. Il leur rappelle tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu, tout ce que l'Éternel a fait pour eux. Les adieux de Josué sont à dessein. Josué a bien réfléchi qu'est-ce qu'il veut laisser au peuple avant de s'en aller. Josué n'est pas naïf, nous allons le voir dans notre texte ce matin. Il veut avertir principalement le peuple de ne pas se détourner de l'Éternel. Un appel qui est ô combien important et que nous pouvons nous aussi nous approprier parce que le danger est toujours là. Lorsque le temps passe, on oublie vite, on s'accoutume aux bienfaits de Dieu. Et le danger est présent de négliger Dieu, de passer à autre chose, de se contenter de ce que l'on a devant les yeux et de mettre de côté tout ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est donc aussi l'occasion pour nous de nous approprier ce message, de nous approprier cet avertissement, cet encouragement de la part de Josué. Je vous propose qu'on commence à lire Josué chapitre 24. J'aimerais déjà prendre avec vous, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit : Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Nous voyons ici l'appel de Josué. Josué appelle Israël. L'idolâtrie reste une tentation constante pour Israël. De toute son histoire, lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, nous voyons que Une des raisons pour lesquelles Israël se détourne de l'Éternel, c'est l'idolâtrie. Et c'est pour cela que Josué, à la suite de Moïse, qui avait donné le même avertissement, et à l'instar aussi des prophètes à venir, qui vont toujours aussi rappeler ce danger, Josué veut lancer un défi courageux. Un défi en plaçant le peuple devant un choix fondamental, un choix très simple. Servez l'Éternel ou bien servez d'autres dieux. Tout se résume à cela pour Josué et nous aussi, nous pouvons nous l'approprier, tout se résume à cela. Soit nous servons l'Éternel, soit nous servons autre chose, quelqu'un d'autre. On aura peut-être plus de difficultés aujourd'hui à parler d'idolâtrie, c'est peut-être un mot un peu poussiéreux pour nous, mais il est si facile pour nous de remplacer l'Éternel dans notre cœur par des choses plus matérielles, des choses plus simples, même parfois par des bonnes choses que l'Éternel nous donne. Il est si facile de se mettre soi-même à la place de Dieu comme étant celui qui décide de notre vie, celui qui va avoir la première place. Il est si facile de mettre parfois ses loisirs, son travail ou même parfois sa famille, des bonnes choses parfois que Dieu donne et qui pourtant peuvent être un piège pour nos âmes. Il est si facile de négliger Dieu et de mettre autre chose à sa place. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, tout simplement. C'est ne pas donner la première place à Dieu. Josué lance donc un appel qui retentit aussi pour nous. Une question toute simple que nous devons aussi nous poser. Qui est-ce que nous voulons servir ? Voulons-nous servir l'Éternel ou voulons-nous servir, peu importe qui, autre chose que Dieu ? Quant à lui, Josué a montré un exemple très fort. De tout son ministère, lorsqu'il a repris le flambeau de la direction du peuple, derrière Moïse, sacré défi aussi, hein, dans lequel Moïse l'a placé, Josué a été intègre. Il a dirigé le peuple, il s'est attaché à l'Éternel et à obéir à tout ce que l'Éternel a demandé. Sa décision à lui était prise depuis longtemps et c'est ce qu'il redéclare ici dans ce demi-verset que parfois on accroche dans nos maisons. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez des chrétiens, hein, parfois on voit ce verset est cité. Un verset qui ce n'est pas juste hein, dans Josué 24, on le retrouve tout au long du livre. Josué a fait cette déclaration et il s'y est tenu. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Un choix fort, un choix très engageant aussi, un choix qui demande de la renonciation. Cela nous demande de renoncer à certaines choses. Si nous mettons l'Éternel en priorité, forcément, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses moins importantes. Touchés par cette forte conviction de leur ancien général, touchés par l'exemple de sa vie, le peuple, tel un seul homme, promet fidélité à Dieu. Loin de nous, la pensée d'abandonner l'Éternel. Non, Josué, nous ne le ferons pas. Nous nous attacherons, nous aussi, à l'Éternel, tout comme toi, tu l'as fait. Quelle joie pour nous de voir ici une telle disposition d'esprit, un tel engouement à s'approprier cette parole que Josué a prononcée. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple fait la même déclaration. C'est là qu'on voit dans ce texte qu'une seule personne parfois peut faire la différence. Vous savez, parfois on se dit, soi-même quand on est tout seul, on se dit « on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, qu'est-ce que l'on peut faire ? Que pouvons-nous faire ? Nous sommes bien faibles, bien impuissants, peu importe que nous fassions les bonnes choses, au final, le monde est tellement vaste que cela ne changera rien. » Nous voyons ici la démonstration que ce n'est pas toujours vrai. Quand bien même nous sommes parfois faibles, parfois nous n'avons pas la foi de Josué, certes, moi non plus, je ne vais pas prétendre l'avoir, mais malgré tout, nous voyons parfois qu'une seule personne peut faire la différence. Une seule personne consacrée corps et âme à l'Éternel peut propager le feu. On parlait tout à l'heure, quelqu'un parlait dans sa prière d'une flamme que Dieu vient placer dans nos cœurs. Et oui, cette flamme, elle peut se propager. La foi est contagieuse. Elle peut se propager à tous ceux que nous côtoyons. N'ayons pas peur, ayons parfois un peu d'audace, en demandant à l'Éternel de nous utiliser, nous, à notre petite échelle, avec nos maigres forces, pour influencer les autres, pour que eux aussi puissent s'approprier cette déclaration de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Un appel donc que Josué lance au peuple, le peuple qui a à cœur de se l'approprier. Et j'aimerais faire maintenant le parallèle aussi avec le Seigneur Jésus. Dans tout ce que nous allons voir ce matin, je vais à chaque fois me permettre de rappeler que le Seigneur Jésus aussi lance un appel. Si je prends avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, j'aimerais simplement vous lire le verset 23 où Jésus aussi nous appelle. C'est donc le Seigneur qui parle. « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Un passage qui est sans équivoque. Un appel de Jésus qui, tout comme celui que Josué lance au peuple, demande une renonciation. Vous voyez là ici, les mots de Jésus sont assez forts. « Qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à lui-même », selon d'autres passages aussi, c'est formulé ainsi, et qui nous montre bien que ce choix n'est pas un choix anodin. C'est un choix qui est quand même très important et qui engage beaucoup. Vous savez, parfois j'aime rappeler que il y a plusieurs choix dans notre vie qui ont plus ou moins d'importance. On se dit que lorsqu'on est jeune homme ou jeune femme et qu'on doit choisir parmi l'océan de possibilités qui est devant nous, quel choix nous allons faire, force est de constater que parfois, eh bien, il y a des choix où on prend le temps de réfléchir. On se dit, mais mince, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel métier je vais choisir, entre autres, hein, c'est un sujet qui est important. Et on passe du temps, on est parfois un peu perdu, on se dit, il y a tellement de choses à faire. Qu'est-ce que je vais choisir comme voie? Ça nous interpelle, on prend du temps pour réfléchir parce qu'on sait que parfois quand on choisit une voie, il est difficile après de changer. Quand on prend une orientation dans notre vie, eh bien ça va nous conduire quelque part. Et forcément, cela nous ferme d'autres possibilités. Ainsi va la vie, c'est normal. Un autre sujet aussi d'importance, si un jour on est amené à choisir un conjoint pour se marier, eh bien on réfléchit beaucoup avant de faire ce choix. On dit, mais au final, si je veux me marier, c'est pour que ça marche, j'espère. Hein. Lorsqu'on fait le choix, on réfléchit en fonction de cela, on veut que ça fonctionne, et on se dit, on ne veut pas choisir au hasard, on veut prendre son temps, on ne veut pas se tromper. Et de façon analogue, il y a aussi ce choix qui est important. Qui vais-je servir? Vais-je servir l'Éternel ou un autre Dieu? Et je me permets de dire ici que ce choix-là, c'est le choix le plus important que nous ayons à faire dans notre vie. C'est plus important que le choix de nos études ou de notre travail. C'est plus important même que le choix d'un conjoint. Beaucoup plus. Cela impacte beaucoup plus notre vie encore. C'est le choix le plus important. Et cela nous pousse forcément à la réflexion. À quoi est-ce que je renonce lorsque je choisis de servir l'Éternel? C'est une question que j'aimerais vous laisser, que Jésus pose aussi dans ce verset de Luc, chapitre 9, verset 23, « Renoncer à soi-même ». J'aimerais que cela puisse vous interpeller et vous faire réfléchir. Est-ce que je veux servir l'Éternel ou un autre Dieu? Un appel fort que Josué lance et que le Seigneur nous lance lui aussi. Et nous allons continuer notre texte, Josué chapitre 24, le verset 19 jusqu'au verset 24. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Dans ces versets, nous voyons que Josué va confronter Israël. Par sa déclaration devant tous les responsables du peuple, Josué a embrasé l'amour du peuple pour Dieu. Leur cœur est débordant de motivation. Comme un seul homme, ils proclament haut et fort qu'ils feront comme lui, qu'ils vont suivre son exemple. Cependant, Josué n'est pas tombé de la dernière pluie. Josué n'est pas naïf, il ne se berce pas de douces illusions. Il sait d'avance que ses bonnes intentions feront feu de paille. Tout cela ne va pas durer, et c'est pour cela qu'il veut confronter Israël. Parce qu'il sait comment est le cœur humain. Il a vu de ses yeux comment ça s'est passé lorsque l'Éternel a délivré le peuple d'Égypte et que le peuple a très vite oublié tous les bienfaits que Dieu leur avait donnés. Josué sait donc que cela ne va pas durer. Il n'est pas satisfait entièrement de cet élan d'enthousiasme de la part du peuple. Il veut les mettre en garde contre eux-mêmes, et c'est pour cela qu'il les confronte. Ce n'est pas juste parce qu'il ne croit pas en eux. Josué voit plus loin que ça. Il ne veut pas juste les confronter pour leur dire « c'est pas la peine, de toute façon vous n'y arriverez pas ». Ce n'est pas ça son objectif. Mais il ne veut pas faire l'impasse sur cette donnée ô combien importante. Nous avons tendance à oublier Dieu en tant qu'être humain. Nous avons naturellement tendance à nous détourner de Dieu. Si bien que lorsque Josué leur demande de s'engager à servir l'Éternel comme lui l'a fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas que le peuple s'engage, au contraire. Mais Josué veut que le peuple s'engage en tout état de cause, en sachant qu'il y a cette tendance humaine à s'éloigner de Dieu. Et c'est pour cela qu'il les confronte. Et Josué va mettre le doigt sur quelque chose dans notre texte. Un sujet qui revient, ce sujet de l'idolâtrie, ce mot poussiéreux. Il pointe le doigt sur quoi dans notre texte ? Verset 23. « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Josué sait qu'au milieu du peuple, lorsqu'il s'adresse à eux, lorsque le peuple prend cet engagement de servir l'Éternel, Josué sait qu'il y a au milieu d'eux des idoles. Des idoles dans un sens terre à terre, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur sac, dans leur poche, des statuettes qui étaient utilisées à cette époque pour adorer d'autres divinités, des divinités païennes. Cela peut nous surprendre, mais Israël, lorsqu'ils ont conquis le Canaan, ils ont fait main basse sur des trésors et des richesses, et lorsque Dieu a ordonné que ces idoles, ces petites statuettes soient détruites, cela n'a pas toujours été fait. Il y a eu des fois des oublis volontaires, bien entendu. Le peuple a gardé certaines choses, et Josué le sait. Et il les place devant cette réalité. Vous dites que vous voulez vous engager, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, oui. Mais du coup, soyez conséquents dans votre engagement. Si vous voulez servir l'Éternel, débarrassez-vous des dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ils sont au milieu de vous, pas seulement dans votre tête, mais dans vos poches, dans vos sacs. Débarrassez-vous-en maintenant, ici. C'est le moment idéal. Et vous avez peut-être remarqué que rien de tout cela n'a lieu. Lorsque le peuple répond, qu'est-ce qu'il répond ? Verset 24. « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Point. Ils ne prennent pas cet engagement de brûler ses idoles publiquement, comme l'Éternel l'avait demandé, et comme Josué l'attend probablement. Rien de tout cela n'a lieu. C'est pour cela que Josué avertit le peuple. Et c'est pour cela qu'il a des paroles qui sont assez dures, hein, au verset 19. « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » C'est quand même rude comme parole. Mais Josué sait que les choses vont se passer comme cela. Il veut donc que les Israélites prennent conscience que cet engagement qu'ils prennent malgré tout n'est pas à prendre à la légère, parce qu'il y aura des conséquences. L'Éternel, Josué le déclare, est un Dieu jaloux et exigeant. Dieu réclame que nous lui donnions notre cœur en entier. Dieu ne peut souffrir aucun rival dans notre cœur. Aucune idolâtrie n'est possible. Josué s'assure donc en fait que le peuple entre dans cette nouvelle alliance solennelle en toute connaissance de cause. La bonne volonté n'est seulement bonne que si elle est suivie d'actes concrets. Le peuple s'engage plusieurs fois, trois fois en tout, à trois reprises, le peuple s'engage résolument envers l'Éternel, à la suite de Josué. Alors, sachant très bien que pour beaucoup d'Israélites qui sont idolâtres, hein, pour beaucoup d'entre eux dans leur cœur, il y a encore beaucoup de choses à régler avec Dieu, leur cœur n'est pas entier, Josué leur demande de prouver cette sincérité, mais ils ne le font pas. Au final, il est bien facile pour nous de juger le peuple, il est bien facile pour nous de nous mettre à leur place et de dire « Oh, moi j'aurais pas fait ce choix, moi je n'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais été plus conséquent ». Mais j'aimerais qu'on prenne aussi le temps d'y réfléchir, chacun dans notre cœur. Qu'est-ce qui pour moi peut être une idole? Où est-ce que je suis fragile? Où est-ce que moi j'ai tendance parfois à négliger Dieu? Et je trouve intéressant que dans les prières de certains d'entre nous, cette question est ressortie. Nous avons nos fragilités. Elles ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous, mais je pense qu'il est sage et qu'il est sain de se les rappeler, d'avoir un regard lucide sur soi-même et de demander le secours de Dieu, comme quelques-uns l'ont fait. Parce que Dieu vient à notre secours. Dieu ne nous laisse pas dans cet état lorsque nous lui demandons d'agir. J'aimerais prendre aussi avec vous un deuxième passage qui concerne le Seigneur Jésus, où le Seigneur Jésus aussi nous confronte. Toujours dans l'évangile de Luc, où j'étais tout à l'heure, au chapitre 11 cette fois, j'aimerais lire les versets 37 à 42, où Jésus nous confronte aussi. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Insensé ! Celui qui a fait le dedans n'a-t-il pas fait aussi, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. On pourrait prêcher sur ce texte, ce n'est pas mon objectif, mais vous voyez bien que là aussi Jésus confronte. Certes des pharisiens, mais nous aussi nous pouvons nous identifier parfois à cette réaction de la part des pharisiens qui présentent bien, en extérieur tout va bien, on est lisse, alors qu'au final au-dedans il y a des choses à revoir. Et j'aimerais que cela puisse aussi nous confronter et nous avertir. N'essayons pas de nous dissimuler devant Dieu. On peut toujours se dissimuler aux autres, c'est facile. Nous ne nous voyons pas si souvent les uns les autres. On se voit le dimanche, parfois lors des réunions en semaine. Et il est facile de faire semblant, de présenter une façade agréable, alors qu'à l'intérieur les choses sont différentes. Il est aussi facile de se mentir à soi-même, de se dissimuler à soi-même qui l'on est. Mais, mes amis, devant Dieu, tout est nu et découvert. L'Éternel nous voit tel que nous sommes vraiment, et nous ne pouvons rien lui cacher. Il est donc bien inutile d'essayer, même si c'est notre tendance, hein, c'est notre nature, d'essayer. Le Seigneur, lui, voit. Et nous avons tout intérêt à être lucides sur nous-mêmes et à être prêts à nous montrer à Dieu tel que nous sommes, avec parfois toute la saleté qui est à l'intérieur de nous. Si nous agissons ainsi, si nous demandons du secours à Dieu, Dieu vient purifier notre cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. C'est là tout l'intérêt aussi pour nous. Nous n'avons pas à nous cacher par peur que Dieu nous voie ou qu'il nous punisse. C'est ce qui pourrait un peu ressortir hein, des versets qu'on a lus, de la déclaration de Josué. L'Éternel va punir. Tout cela peut produire en nous une volonté de cacher, de dissimuler à Dieu. Mais tout cela est bien vain. Le Seigneur, au contraire, s'est engagé à nous pardonner si nous sommes dans cette attitude d'humilité, si nous sommes prêts à revoir notre copie et à lui présenter toutes nos faiblesses. Josué confronte Israël, Jésus nous confond. Et la vie avec Dieu, c'est un peu comme un miroir. On se découvre un peu tel qu'on est, et au final, on n'est peut-être pas aussi joli que ce qu'on pensait, intérieurement parlant, j'entends. Enfin, nous allons terminer notre lecture de la parole ce matin. Josué, chapitre 24. On va prendre les versets 25 à 28. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple : Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Josué place un témoin contre Israël. C'est surprenant hein, d'entendre cela. Placé contre. Normalement, ce n'est pas contre. On aurait aimé plutôt lire « Josué place un témoin pour Israël ». Mais Josué veut encore une fois bâtir sur ce qu'il a construit. Il a confronté Israël et maintenant il place un témoin pour qu'Israël n'oublie pas. Et c'est pour cela qu'il place un témoin contre Israël. Il commence d'ailleurs par consigner le renouvellement de cette alliance par écrit. C'est la première chose qu'il fait. Il écrit dans le livre de la loi et il le remet à sa place, hein, à côté du coffre de l'Alliance. C'est là qu'est sa place. C'est ce qu'on trouve dans Deutéronome, hein, chapitre 31 et verset 26. Je le cite, mais on ne va pas le lire forcément. Josué veut qu'il reste une trace. Il en met une dans le livre de la loi et il veut aussi placer cette grande pierre, ce monument qui est dressé par Josué sous un chêne assez célèbre. Hein, c'est le chêne de Morée ou de Sichem, que l'on retrouve dans d'autres textes de la Genèse principalement. C'est le septième mémorial qui est mentionné dans le livre de Josué. Josué a souvent eu à cœur de placer des choses visibles, physiques, pour que le peuple se souvienne. Des monuments que l'on retrouve parfois dans le livre des Juges ou même plus tard dans l'Ancien Testament. Ce monument, il sert de témoin visible et symbolique à cet engagement solennel qu'a pris le peuple à l'égard de l'Éternel. Il est mentionné notamment deux siècles après dans le livre des Juges, au chapitre 9 et au verset 6. Il est aussi intéressant de noter que récemment, au cours de fouilles archéologiques, on a retrouvé un grand pilier de calcaire dans les environs de Sichem. On ne sait pas si c'est celui-là, hein, peut-être que oui, peut-être que non, mais je trouve quand même intéressant de se dire étonnant. Imaginez que ce soit celui-là, que ce soit ce même mémorial. Après combien d'années, il est toujours présent. Certes, on peut probablement se tromper, et peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Mais je trouve intéressant le principe quand même de Josué. Il veut laisser une marque visible pour que le peuple n'oublie pas. Il place ce témoin contre Israël, pour qu'Israël se souvienne de cet engagement, pour qu'il n'y renonce pas. Et c'est là, vous voyez, l'objectif de Josué. Josué ne veut pas juste que le peuple se détourne de l'Éternel. Josué ne veut pas juste que le peuple ne s'engage pas. Au contraire, Josué veut qu'il s'engage, mais il le confronte. Et il place ce témoin pour qu'Israël n'oublie pas l'oubli de Dieu. C'est une constante que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la relation entre Israël et l'Éternel. L'oubli, l'oubli, l'oubli. Une génération passe, une génération qui, elle, se souvient, et la génération suivante, elle oublie Dieu. Josué place donc un témoin contre Israël, et vous savez de quoi je veux parler maintenant, Jésus aussi place un témoin. Mais nous avons de la chance, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il y a certains changements, et cette fois-ci, le témoin que Jésus nous donne, il ne le place pas contre nous, mais il le place pour nous. Il le place même avec nous. Quelle chance pour nous! J'aimerais vous lire dans l'évangile de Jean, cette fois, au chapitre 14, les versets 25 et 26. C'est Jésus, encore une fois, qui parle. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus nous donne un témoin dans la personne du Saint-Esprit. Un témoin qui, cette fois, n'est pas juste placé à un endroit fixe, comme ce que Josué a fait. Un témoin qui est placé dans le cœur. Un témoin que l'on a toujours sous les yeux, si j'ose le formuler ainsi. Un témoin qui est là pour nous enseigner et pour nous rappeler tout le chemin que nous avons parcouru avec Dieu, afin que, selon les propres mots de Jésus, nous nous rappelions. Et vous voyez le lien que je fais avec ce que Josué a fait. Josué a placé cette stèle pour que le peuple se souvienne. Jésus nous donne l'Esprit de Dieu pour que nous nous rappelions. C'est peut-être pas la première fonction du Saint-Esprit à laquelle on pense, Quand on pense à l'utilité du Saint-Esprit, que fait le Saint-Esprit ? Il est pourtant aussi là pour cela, pour nous rappeler. Jésus nous donne ce témoin afin que nous n'abandonnions pas l'Éternel, afin que nous fassions le bon choix. Tout comme Josué, c'est ce que j'aimerais vous partager pour ma conclusion, le Seigneur Jésus, il nous appelle, il nous confronte, et il place un témoin dans notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à entendre cet appel ? Est-ce que nous sommes prêts peut-être à renouveler cet appel, comme le peuple l'a fait dans ce texte de Josué ? Est-ce que nous sommes prêts, mes amis, à nous laisser remettre en question par le Seigneur ? Est-ce que nous sommes prêts, au final, à lui faire de la place dans notre cœur pour que son esprit puisse agir ? J'aimerais terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui s'est engagé pour nous. Tu es celui qui a tout accompli, Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé à nous le premier. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi qui es venu nous saisir, comme l'a dit François. C'est toi, Seigneur, qui as fait le premier pas. C'est toi aussi, Seigneur, qui nous confronte, qui nous remet en question. C'est toi qui pointe du doigt ce qui, dans notre cœur, ne va pas. Nous avons cette tendance, Seigneur, à avoir un cœur partagé, un cœur qui n'est pas entier à toi. Et nous voulons te demander ton secours, Seigneur, parce que parfois nos intentions sont bonnes. Comme le peuple, nous avons à cœur de nous engager résolument pour toi. Mais comme le dit aussi Josué, eh bien parfois les actes ne suivent pas. Et Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi parce que toi, tu es capable de nous aider par ton esprit à rendre nos actes conformes à notre engagement. C'est là notre chance, Seigneur, par rapport à ce texte, par rapport au peuple qui n'avait pas la chance d'avoir l'esprit en lui. Nous, Seigneur, nous avons ton esprit. Et nous voulons te demander que par ton esprit, tu agisses pour que nous réglions notre conduite selon ce que tu nous demandes. Merci parce que c'est grâce à toi, Seigneur, c'est grâce à ta perfection que nous, nous pouvons bénéficier de l'œuvre de ton esprit. Merci parce que c'est toi qui l'as placé dans notre cœur comme un témoin pour nous rappeler et pour nous conduire sur le chemin de l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à lui faire de la place pour qu'il puisse agir, prendre la place qui lui revient de droit. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton pardon. Merci parce que même si nous fautons, même si nous chutons, Seigneur, tu nous tends la main et nous pouvons nous réapproprier cet engagement. Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Rends cette parole vivante, Seigneur, dans notre cœur et dans nos actes. Amen.
Amen.